Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur. Aujourd'hui, je reçois une artiste plasticienne genevoise bien connue, Iseut Labotte, nom de guerre de Vanna Karamaounas. Bonjour Vanna.
Bonjour Viviane.
Vanna, tu as un très grand talent. Je l'ai toujours pensé depuis que je t'ai rencontrée. D'ailleurs, il n'y avait pas que moi, puisque Pierre Darrier, que nous aimons toutes les deux beaucoup, que nous aimions beaucoup, et qui est malheureusement plus de ce monde, aussi avait détecté ton grand talent. Et Dieu sait que c'est quelqu'un qui savait détecter les talents. Et lorsque les visiteurs de Radio Cité Genève accèdent à nos studios, ils passent devant l'une de tes œuvres qui est absolument majeure et emblématique. Un gigantesque puzzle fait de milliers de photos découpées, le terrible 11 septembre. Et d'ailleurs, c'est le titre de cette œuvre.
C'est juste. C'est
J'aimerais une œuvre. Bien que tu en parles.
C'est une œuvre qui fait presque 20 mètres carrés, qui a 43 560 petits morceaux de puzzle que j'ai assemblés les uns après les autres. Pas toute seule, j'ai demandé de l'aide à des amis et à ma famille. Et en fait, ce sont 99 images pour expliquer le 11 septembre, c'est-à-dire qu'il y a 9 images en hauteur par 11 en largeur, qui est donc le 11e jour et le 9e mois, pour expliquer en fait le chaos et
le choc.
Le choc du 11 septembre, les répercussions, mais aussi les antécédents, pourquoi il y a eu ça, etc. Donc c'est aussi une forme c'est-à-dire, c'était aussi pour exprimer la manipulation des médias. Parce qu'il y a sur certains canaux, on nous explique une chose, sur d'autres canaux, on nous montre autre chose. Et en fait, on est au milieu, on est manipulé. Et le résultat, c'est que finalement, il faut toujours être très lucide et faire sa propre analyse des choses qui se passent.
Alors, ce que tu dis prend une importance toute nouvelle à l'heure des réseaux sociaux et des fake news, bien évidemment.
Absolument.
Mais là, en l'occurrence, quand on passe devant et j'y passe très souvent, tu t'en doutes.
Oui.
On passe devant ton tableau, ton œuvre, parce que c'est pas un tableau, et que l'on voit ces corps qui sont comme des petites barres noires et qui tombent des tours en flammes, c'est terrifiant.
Ah, c'est terrifiant. Ça a été, de toute façon, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire à tout jamais et le monde a changé après. Il y a un avant 11 septembre, il y a un après 11 septembre. Ça, c'est évident. Et c'est vrai que dans cette œuvre, j'avais vaguement annoncé, c'est un peu exagéré de dire ça, mais disons que, en tout cas, dans l'œuvre était présente la possibilité d'une guerre en Irak qui a d'ailleurs eu lieu, je crois, à peine un mois après que l'œuvre ait été présentée au premier festival du film sur les droits de l'homme. Et ensuite, elle a été également montrée au sommet mondial de la société d'information à l'ONU, aux Nations Unies à Genève.
Nous sommes très fiers de pouvoir la voir à Radio Cité Genève.
Et moi, je suis fière qu'elle vive ici. Merci, Viviane.
Vanna, tu connais la question habituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu ?
Alors ça, c'est une question un peu difficile parce que je me suis adressée à ma maman pour lui poser la question. C'était la plus apte à répondre. Elle m'a dit que j'avais été toujours une enfant très facile, très joyeuse, très gaie, précoce, parce qu'il paraît que j'ai marché et parlé extrêmement vite et bien. Voilà.
Vanna, ton père est grec et oui. Ta mère de Lucerne, hein, je
Exactement.
Crois. Donc tu es suisse et grec, ou grec et suisse.
Tout à voilà. fait.
D'accord. C'est important de savoir ça. Alors donc, enfant facile, où est-ce que tu as fait tes études ?
Donc, mon père est venu d'Athènes étudier à l'EPFL à Lausanne, comme ingénieur. Et ma maman était à Vevey, aux arts décoratifs. Ils se sont rencontrés et puis ensuite, ils ont déménagé, ils ont emménagé à Genève. Et nous sommes nés à Genève, ma sœur et moi.
Donc, une maman qui avait déjà un goût pour l'art très prononcé,
oui.
qui était déjà une artiste elle-même et qui t'a élevée, j'imagine, dans l'amour de l'art.
Oui, alors, il faut dire aussi que mon père était un collectionneur d'icônes. Et donc, on avait une collection extrêmement importante.
Il faut expliquer pour nos auditeurs ce que sont les icônes.
Les icônes sont des images saintes byzantines, donc orthodoxes russes ou orthodoxes grecques, ou il y a même roumaines d'ailleurs, qui sont des
peintures sur bois.
Qui sont peintes sur bois, absolument. Et donc, on avait une collection, on avait beaucoup de pièces du 10e siècle au 17e siècle. Et donc, on a été baigné là-dedans. Et mon père était vraiment très, très, très passionné par l'art. Et toutes nos vacances, on les passait aller à la découverte de l'art. Et particulièrement en Italie, on a vraiment passé à la maison de l'art byzantin, à la Renaissance en Italie. On est remonté dans le temps jusqu'à l'art contemporain.
Oui. Passionnant, donc.
Passionnant. Moi, j'ai été très imbibée là-dedans. J'étais comme une éponge. J'ai pris. Et je pense que c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui.
Alors, à quel moment tu as définitivement décidé que l'art serait ta vie, que serait ton métier?
C'est un concours de circonstances un peu particulier. Quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, j'étais persuadée que j'allais être reporter sur les fronts de guerre.
Non, la politique, Dieu, c'est très différent, ça.
Oui, la politique, l'histoire, tout ça m'intéressait. Faire des photos sur les fronts de guerre et informer le monde de ce qui se passait. Et puis, à l'âge de 50 ans, mon père a vendu son entreprise. Et comme il était passionné par l'art, il a dit, à 50 ans, j'ouvre une galerie d'art, la galerie Cara. Et à ce moment-là, c'était juste, j'avais terminé ma maturité. Et il fallait que je me décide pour l'université. Et j'avais prévu de faire sciences politiques. Il m'a dit, non, écoute, c'est quand même mieux que tu fasses les lettres histoire de l'art. Comme ça, tu vas travailler à la galerie sera pour toi, enfin, une galerie familiale, etc. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis mise à travailler dans la galerie familiale.
On va en parler tout à l'heure de cette galerie, mais qu'est-ce que tu nous fais écouter? Il faut que ce soit toi qui le prononce, parce que c'est du grec.
C'est du grec. C'est Melina Mercouri, na methymase, que tu penses à moi.
Stamatia pesita, strotis avis. Oi, los plenito, la τίποτα μ' αγάπη και βάθη κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι ήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή, μικρό φίλι. Ταξιδική νύστες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή, μικρό φίλι.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec une artiste plasticienne de Genève bien connue, Iseute Labotte, qui est le nom de guerre de Vanna Karamaounas. Alors Vanna, on vient de voir que ton père a un peu dirigé tes études, tu n'as pas tout à fait fait ce que tu envisageais de faire à l'époque et tu as commencé à travailler avec lui à la galerie Cara.
Exact. Mais j'ai quand même fait ce que je voulais faire. Parce que j'ai quand même fait, j'ai fait une demi-licence en histoire de l'art en lettres, mais j'ai quand même fait Sciences Po aussi, avec d'ailleurs le professeur Sidjansky.
Et qui était ce professeur?
Le professeur Sidjansky, qui se bat pour le retour des marbres du Parthénon.
Dont je suis également dans le. Qui explique des choses dont on va parler tout à l'heure aussi, des démarches et des batailles. C'est juste. Qui ont émaillé ta carrière. Alors, Cara, qu'est-ce que tu y as fait exactement?
Cara, j'ai travaillé une dizaine d'années avec mon père et ma maman, d'ailleurs, mes parents. On a exposé à la foire de Bâle 16 ans. C'était une galerie qui défendait des artistes, des peintres, des sculpteurs contemporains qui étaient peut-être pas forcément connus du grand public, mais qui étaient tous dans des grands musées.
Est-ce que c'était en majorité des Grecs ou
Non. C'était, il y avait de toutes les nationalités, des Américains, des Français, enfin, de partout.
Et donc c'était vraiment un choix esthétique et.
C'était un choix esthétique et je pense que mon père a été, au-delà d'un galeriste, d'un vrai galeriste, aussi un mécène parce qu'il avait. Il payait des salaires mensuels à tous les artistes qu'il défendait. En fait.
C'est comme les fracs français.
Exactement.
Et ça, c'est extraordinairement courageux de la part d'un particulier.
Alors ça, on peut le dire.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui ont réussi à percer, des artistes que vous avez lancés qui ont percé
Alors, on a eu des grands artistes comme Wilfried Moser, qui est éminemment connu en Suisse, pour qui à un moment donné avait une énorme cote. Après, elle est un petit peu redescendue, elle remonte. Il n'était pas dans les cercles à la mode. Il défendait des artistes en lesquels il croyait, qui avaient une qualité certaine, puisque de toute façon, on a exposé à Bâle, donc on avait quand même une validation, si on peut dire, du monde de l'art.
De vos choix, tout à fait. Alors, tu travailles combien de temps dans la galerie Cara?
Je travaille peut-être, je ne sais pas exactement, une dizaine d'années, ou peut-être un peu. Non, peut-être moins, un peu moins.
Alors, est-ce que tu participais au choix des artistes ou est-ce que tu montais les expositions? Qu'est-ce que tu faisais? Ou
non,
est-ce que tu recevais les clients? Tu participais à la vente? Qu'est-ce que tu faisais exactement?
Alors, je participais à l'organisation, enfin, tout ce qu'il fallait faire pour l'organisation, c'est-à-dire les catalogues, les foires, parce qu'on faisait pas Carte Basel, on faisait Arco, on faisait Turissima. Artissima à Turin, etc. On faisait beaucoup de choses, donc il y avait beaucoup de travail. Mais le choix des artistes, c'était mes parents qui le faisaient. C'est eux qui visitaient vraiment les ateliers. Parfois, on les accompagnait, mais ils voyageaient beaucoup. Donc moi, j'étais là pour m'en occuper.
Souvent seule à la galerie, alors.
Souvent seule à la galerie ou avec eux. Et plus tard, quand je suis partie, c'est ma sœur qui a repris un petit peu aussi quelques années.
Alors, à quel moment as-tu commencé à te sentir artiste toi-même au pays des artistes?
Je crois que je peux pas l'expliquer comme ça. C'est-à-dire que j'ai reçu un appareil photo russe, un Zénith, quand je vais avoir, je crois, 16 ans, 15 ou 16 ans. Et j'ai toujours fait de la photographie avec ça. Après, j'avais un labo où je développais mes images, etc. Mais je le faisais vraiment par nourriture personnelle. C'est-à-dire, j'en avais besoin pour vivre. C'est-à-dire,
c'était ton mode d'expression.
C'était mon mode d'expression. Mais je le montrais à personne, finalement. Je développais mes photos, puis après, je les mettais dans des boîtes, puis je passais à autre chose, j'allais faire des photos de chantier très souvent, déjà.
Est-ce que déjà, tu faisais des séries dans ta tête, avant de devenir l'artiste que tu es aujourd'hui et qui a, tout au long de sa carrière, fait des séries? Est-ce que tu as déjà fait ça à l'époque?
Oui.
Oui.
C'est-à-dire fou,
que tu épuisais un sujet, en quelque sorte?
Absolument. Et ça, je m'en suis rendu compte après, genre 20 ans plus tard.
Oui.
Non, peut-être pas, mais 15 ans plus tard, en tout cas. Et ça s'est fait vraiment de façon tout à fait en dehors de ma volonté, puisque donc je travaillais à la galerie.
On est en quelle année, là, quand tu commences toi-même au fond, à te sentir artiste.
Mais je...
Tu t'es toujours senti artiste.
Mais j'en sais rien, mais c'était, tu sais, ça s'était pas révélé, disons.
Voilà. Alors à quel moment est-ce que ton personnage artistique s'est révélé aux yeux du public, de ta famille d'abord, bien sûr, j'imagine, surtout des galeristes, et ensuite aux yeux du public?
C'est mon père qui m'a jeté dans l'arène.
Ah.
Parce que un soir, ils sont venus dîner à la maison, mes parents, et j'étais dans la cuisine, et mes parents étaient dans le salon. Et j'entends mon père s'exclamer « fantastique, extraordinaire, magnifique ». Donc, j'accours dans le salon en disant « qu'est-ce qui t'arrive ?» J'avais laissé une pochette avec quelques photos. Et il m'a dit « mais tu es prête, il faut que tu exposes ». Et moi, vraiment, j'étais à milieu, pas une seconde de ma vie entière. J'avais imaginé que j'allais passer de l'autre côté, puisque c'est moi qui organisais les expositions. J'organisais des performances à la Galerie Cara. C'est vrai qu'il y avait aussi quand même quelques artistes que j'avais choisis. Enfin, je faisais tout ce travail et je me rendais bien compte que c'était difficile la vie d'un artiste. Et lui, il était persuadé qu'il fallait que j'expose. Et pour moi, c'était insensé.
Alors, dans cette fameuse pochette, les formats étaient petits.
Ah oui, c'était du 13-18, c'était du tout petit. Et puis, c'était quelque chose que j'avais oublié de ranger, surtout.
D'accord, donc pas destiné à être montré.
Pas du tout.
On va écouter Norma avec cette merveilleuse voix de cette immense cantatrice grecque, elle aussi, comme toi.
La plus grande.
La plus grande.
Thank you.
Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec une artiste plasticienne genevoise bien connue, Isotte Labotte, nom de guerre de Vanna Karamaounas. Alors Vanna, on vient de te laisser, avant d'écouter Maria Callas, on t'a laissé dans ta cuisine finalement, où ton père vient de découvrir que toi aussi tu es une artiste.
Il a pensé que je l'étais, effectivement. Et moi, je ne m'imaginais pas du tout là-dedans. Et pendant 6 mois, tous les matins, il m'a téléphoné en me disant « il faut que tu exposes ». Pendant 6 mois.
Est-ce que je peux dire que ton père avait de la suite dans les idées ?
On peut le dire. Et moi, après 6 mois, j'avais de la résistance, on va dire aussi.
Tout à fait. Et alors, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as cédé ?
Je me suis dit quand même, mon père qui est un homme cultivé, érudit, qui a du bon sens, qui est quand même dans
qui
l'art depuis...
Qui veut le bonheur
depuis...
de sa fille aussi.
J'espérais, justement là que je me suis dit, il va quand même pas jeter dans la fosse au lion sa fille. C'est pas possible, si j'étais vraiment nulle. Après, on aime ou on n'aime pas, ça je...
C'est un autre débat.
C'est un autre débat. Donc, le dernier jour, entre guillemets, où il me dit ça, je vais à la bibliothèque d'art et d'archéologie et je récolte une cinquantaine d'ouvrages de ce qui s'était fait en photo ces dernières années. Effectivement, je rentrais dans aucun créneau. Alors, j'étais pas à la mode ou peut-être je sais pas quoi, mais en tout cas...
Mais c'était bien parce que du coup...
C'était bien parce que je me suis dit, il y a peut-être un créneau à prendre.
Et ton travail était original, donc ça c'est tout ce qu'on veut d'un artiste, on veut pas qu'il soit un suiveur.
Voilà, qu'on reconnaît entre guillemets la signature, c'est juste. Donc le lendemain quand il m'a rappelé, je lui ai dit oui.
Ah.
Mais en revanche, je veux pas m'appeler Vanna Karamaounas parce que je veux pas qu'on dise c'est la fille de la galerie Cara ou celle qui édite la publication Lara Genève, etc.
J'aimerais... Et pourquoi Isotte Labotte?
Parce que Tristan Iseux, c'est quand même le premier roman d'amour. Et comme je suis un petit peu romantique, je me suis dit, allez, Iseux. Et puis Labotte, il fallait que ça soit une consonance un peu française et que ça colle. Je sais pas, c'est venu comme ça en s'amusant. Et voilà, j'ai fait 20 ans sous Iseux Labotte. Et cette année, à l'exposition que je viens de terminer aux Berges de Vessie, sur les exodes, j'ai pris, pas repris, parce que je l'avais jamais pris, j'ai décidé d'exposer sous le nom Vanna Karamaounas, suite à quelques personnes chères à mon cœur qui m'ont vraiment, qui m'ont guidée là-dedans. Il y a Adelina von Fürstenberg, qui elle, quand elle m'expose, elle met Isotte Labotte Karamaounas, alors ça fait vraiment très long.
Il faut que tu expliques qui elle est, parce que c'est un personnage important dans la vie culturelle genevoise aussi.
Mondiale, internationale
mondiale,
même.
Oui, mondiale.
Ouais. C'est une femme extraordinaire, vraiment qui a du génie, qui a créé le Centre d'art contemporain à Genève et qui a une association qui s'appelle Art for the World et qui continue à faire des expositions absolument exceptionnelles à travers le monde. C'est une femme que j'estime beaucoup. Voilà, donc elle m'a dit ça souvent.
Je pense que c'est une bonne idée de n'avoir qu'une identité parce que les gens, sinon... Ça brouille un peu les esprits, je pense.
Oui, c'est effectivement, c'est le cas. Mais moi, j'avais besoin qu'on valide mon œuvre.
Oui, ça, c'est normal aussi à l'époque.
Et donc, j'aurais pas pu exister si j'avais su qu'on faisait de la complaisance.
Ah oui.
Et je me suis cachée, en fait, derrière.
Alors,
ça.
Alors, qu'est-ce que tu as commencé par faire ta première exposition donc d'artiste? La première exposition d'Isotte Labotte, donc, c'était déjà une série. Et c'était, je crois, Urbanus.
Urbanus, oui. Alors, Urbanus sont des... Donc, c'est vrai que je fonctionne par série. C'est juste. Et Urbanus, bah, ce sont des pérégrinations à travers le milieu urbain. Donc, ça peut être des façades, ça peut être... C'est souvent dans les chantiers. En fait, il y a deux facettes dans mon travail, les paysages urbains et les paysages sociopolitiques.
Alors, tu as souvent fait des chantiers, des entrepôts, des usines qui étaient voués à l'éphémère, voués à la disparition.
Oui.
Ça a été une marque de ton... En tout cas, dans ces années-là, il me semble.
Oui. Alors, c'est vrai que je ne suis pas la seule artiste à faire ça. Il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Moi, je suis allée souvent sur des chantiers importants pour lesquels il fallait des autorisations. Mais au lieu de prendre la totalité du chantier, ben finalement, je pouvais descendre à 70 mètres sous la mer avec un casque et sur une échelle, etc. Mais prendre après un détail... Voilà.
En fait, tu grossissais souvent un détail.
Alors, ça allait dans les deux sens. Ou c'était un grossissement, enfin un macro ou un micro. C'était dans les deux sens, il y a un aller-retour.
En tout cas, c'était toujours déserté par la présence humaine.
Ça, toujours, toujours.
Ce qui crée une sorte, je ne vais pas dire d'angoisse, mais de vide, enfin de vacuité qui est étrange.
Oui, alors, par pudeur, j'aime pas exposer les visages. Et souvent, quand je vais dans des expositions, enfin dans des chantiers ou dans des usines, je photographie les ouvriers et je leur donne les portraits. Mais je les expose jamais, en fait.
À quel moment tu as exposé à Paris? Tu te souviens de ça?
Bien sûr que je me souviens.
À la galerie VJW.
C'était chez toi, absolument. Et c'était la série Smash de l'usine Babola, des raquettes de tennis, effectivement.
Alors très, très là, juste. Tu étais déjà une artiste lancée et tu as eu beaucoup de succès d'ailleurs.
Oui.
Je me souviens de ça avec beaucoup d'émotion.
Moi aussi.
Oui.
D'abord, c'était un très beau lieu, hyper bien placé. Oh, c'était magnifique.
C'est vrai. Alors, tu as fait ensuite tellement de séries. Tu as fait la série, si on les bouquets.
Oui.
Et je me souviens d'Allumettes.
Alors, Bouquet, c'est une série, en fait, de fer à béton avec des pointes rouges.
Donc, des allumettes.
On dirait des allumettes. On peut dire aussi, je sais pas, tout le monde pense autre chose. C'est pour ça que ça s'appelle bouquet, en fait. Ça peut être un bouquet d'allumettes, un bouquet de fleurs, un bouquet de crayons, un bouquet de ce qu'on veut.
Alors, les nourrices avec les boîtes de conserve.
Oui.
Il y a eu Exode. Alors, Exode, c'est le dernier. Hein.
Oui.
Mais tu as eu la chaudière aussi de Tokyo.
Ah oui, oui.
Oui, ça, c'est comme si tu avais regardé à travers un trou de serrure, en quelque sorte.
Presque.
Explique-le, parce que ça, c'est magnifique aussi.
J'ai eu la chance d'être invitée à Tokyo pendant 15 jours, et dans le vieux Tokyo. Et... pas loin, il y avait des bains publics. Et je suis allée assez souvent parce que c'était un lieu absolument magique. Et c'est vrai que ici, l'espace est vraiment l'équivalent d'un produit de luxe. Quand on a un burn-out ou qu'on a fait un accouchement un peu fatigant, difficile, on va au spa. Et là-bas, à contrario, vraiment, les bains publics, c'est ou parce qu'on n'a pas de salle de bain à domicile, ou parce qu'on
donc c'est très populaire.
Très populaire, ou parce qu'on est seul et qu'on veut un petit peu trouver de la compagnie, ou pour se réinsérer dans la société, on passe par le bain avant, c'est-à-dire après la période de prison, on va d'abord au bain public, puis dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir photographier dans la chaudière, parce qu'à l'intérieur je pouvais rien faire. J'ai suivi un chat qui sortait du bâtiment, qui s'est engouffré dans une porte. Je l'ai suivi et voilà ce qui en est sorti.
Et c'est très beau. On écoute Amy Winehouse, Back to Black. Go back.
to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love blow. And life is like a pipe and I'm a child.
C'était Genève, Viviane Juto, l'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec une artiste plasticienne genevoise bien connue, Iseute Labotte, nom de guerre de Vanna Karamaounas. Mais on a vu que maintenant, c'est Vanna Karamaounas, tout le temps. Alors Vanna, tu as fait dernièrement une exposition qui a eu énormément de succès à Genève, sur un thème qui est celui de l'Exode. Et je pense qu'il y a, enfin je ne pense pas, je sais, parce que j'ai lu dans la presse, qu'il y avait un lien avec l'histoire de ta famille.
Oui, c'est juste. Bon, c'est vrai que l'Exode, c'est un sujet douloureux et finalement, à mon sens, qui existe presque dans chaque arbre généalogique. Je pense que toute famille, à un moment ou à un autre, a dû subir un exode. Et donc la mienne, enfin celle du côté paternel, donc mon grand-père vivait à Smyrne, qui est l'Asie mineure, mais qui était la partie grecque à l'époque. Et en 1923, Atatürk a décidé d'incendier la ville et tout le monde est parti. Donc tous les Grecs, les Arméniens, les Juifs ont dû quitter la ville. Sans rien, avec même pas une valise.
Comme on voit les migrants aujourd'hui.
Et j'ai toujours entendu cette histoire, enfin je l'ai entendue vraiment à plusieurs reprises, comme quoi la grand-mère de mon père, finalement, avait fermé la maison à clé, avait pris la clé en se disant peut-être qu'un jour on reviendra et qu'on retrouvera toute notre vie, puisqu'ils avaient fait leur vie là-bas. Et ils sont partis. Alors, en général, les
Grecs... Ils sont jamais revenus.
Ils sont jamais revenus. Il faut dire aussi que les Grecs de l'Asie mineure de Smyrne, d'ailleurs, il y avait Onassis qui était de là-bas aussi, tous ces Grecs-là étaient des Grecs cultivés et riches, des commerçants, etc., qui avaient étudié à l'étranger. Donc, c'était déjà, ils avaient une chance. C'était pas la Grèce rurale du continent. Et une tante de mon père avait beaucoup de bijoux et des bijoux très précieux. Et grâce à ce pactole de bijoux, ils ont pu se réinstaller à Athènes. Ils ont eu cette chance. Donc, ces Grecs-là de Smyrne ont c'est ce qu'on dit hein, dans l'histoire, c'est pas moi qui le dis, ont appris aux Grecs d'Athènes et d'ailleurs à faire une économie, à devenir prospère, etc.
Alors, comment est-ce que tu as traduit ça dans ton exposition ? Je crois que tu as traduit ça avec des matelas, des lits défaits,
exactement,
des lits entrouverts.
C'est ça. Donc, c'est une histoire que j'ai beaucoup entendue et j'avais envie de la traiter parce que c'est un sujet qui est fort et qui appartient à tout le monde, finalement. Et pour pas prendre des visages de nouveau par pudeur, et parce qu'il y en a assez qui le font à ma place, j'ai eu envie de traiter ce sujet par des matelas. Parce que le matelas, finalement, c'est quelque chose que l'on emporte avec soi et qui est à nouveau son propre territoire.
C'est un objet très intime, un matelas.
C'est un objet très intime, effectivement, où on peut pleurer et rire, où on a des cauchemars, des rêves, on se fatigue, on reprend du courage. Il y a mille... C'est vraiment son intimité.
C'est lié à l'histoire de celui qui l'occupe.
Exactement. Hein, puis, c'est une vraie frontière. On se recrée un nouveau territoire. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je suis partie un petit peu dans différents pays... dans Grèce, évidemment, dans le sud de l'Italie, en France, en Allemagne, enfin à Berlin, et puis aussi en Pologne, où j'ai photographié différents matelas dans différentes situations, dans des centres souvent ou dans la rue, ça dépend.
Tu avais pris l'idée à Berlin, je crois, c'est ça ?
C'était... Alors, c'est pas que j'ai pris l'idée à Berlin, parce que j'ai commencé à travailler dessus, je crois, en 2013.
En fait, tu as retrouvé Hedruska.
Exactement. Et en allant visiter cette exposition, c'est très juste.
Qui avait au fond aussi le thème du matelas, mais très différent.
Mais très différent. Voilà. Lui, c'était dans les métros, c'était pas le même sujet, non. Mais disons qu'on travaillait sur le matelas.
Tous les deux sur le matelas.
Et comme j'avais déjà commencé, je me suis dit, c'est comme un signe, il faut que je continue.
C'est ça. Alors, je voudrais maintenant parler d'une autre de tes grandes aventures, bien entendu. Alors, tu es éditrice en même temps. Et oui. Ça, c'est une immense aventure dont il faut qu'on parle, parce que c'est, je pense aussi, peut-être aujourd'hui, l'essentiel de ton travail. À côté de ton œuvre de créateur, tu es éditeur, et ceci depuis 91, je crois, ou 92.
Oui, ça fait presque 30 ans.
Ça fait presque 30
29e ans. 29e année l'année prochaine.
Alors, annonce-nous ça, parce que c'est très important, et on en reparlera tout à l'heure. Alors, ça s'appelle
L'art à Genève, et c'est un programme d'exposition de tout ce qui se passe à Genève et dans le canton, donc les expositions qu'il y a dans les galeries et les musées, les institutions. Et quand je travaillais justement à la Galerie Cara, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune information qui annonce tout ce qui se passait dans l'art, en fait. Et c'est comme ça qu'un matin, je me suis réveillée avec cette idée. Et 3 semaines plus tard, le premier numéro est sorti. Et ça fait maintenant le 168e numéro qui va être en ligne, enfin publié au mois de janvier.
On va en reparler tout à l'heure, Vanna. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
My hand now, and wondering what dress to wear. Radio Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec une artiste plasticienne genevoise bien connue, Vanna Karamaounas. On va laisser tomber maintenant, Isotte Labotte.
Oui.
Elle a fait son temps.
C'est juste.
Elle a fait son temps et je voudrais parler donc maintenant davantage. On l'a juste évoqué tout à l'heure avant d'écouter Aretha Franklin. Je voudrais parler de cette énorme aventure, l'art à Genève, que tu as commencé en 91 et qui paraît tous les deux mois, je crois, qui est rouge.
Absolument.
Voilà. Et surtout, sa caractéristique, c'est qu'il est gratuit.
Absolument. Il est gratuit depuis toujours. Et donc, il est rouge comme le drapeau suisse rouge. Donc, la fiabilité aussi, le sérieux. Rouge comme la passion aussi, ma passion pour l'art. Et donc, c'est un bimestriel, c'est-à-dire qu'il sort tous les deux mois avec toutes les informations, galeries, comme je vous l'ai dit avant, vernissage, exposition, etc. Et depuis, j'avais déjà un site internet, mais qui n'était pas, disons, c'était juste une page sans interaction. Et depuis le mois de mai, il y a donc un nouveau site qui a été créé, spécial, qui ressemble pas au chablon habituel qu'on voit. Donc c'est un site avec des petites ouvertures comme ça, comme un calendrier de l'Avent.
Des petites fenêtres qui s'ouvrent.
Des petites fenêtres qui s'ouvrent et puis on a des articles.
Alors, Vanna, donne-nous tout de suite l'adresse de ce site, s'il te plaît.
Volontiers. Donc, c'est artagenève.com. Donc, www.artagenève.com.
Alors, tout ça écrit en petites lettres et en continu.
Et si jamais on trouve pas, on va sur Google et on tape l'art à Genève et on y arrive directement.
Et là, on trouve. Alors, les petites fenêtres s'ouvrent et les petites fenêtres s'ouvrent sur différentes rubriques.
Oui.
Voilà. Alors, il y a les artistes, il y a les galeries, il y a les ventes aux enchères, il y a les expositions.
Absolument.
C'est extrêmement complet.
Oui. Et puis, surtout, j'avais envie de donner un plus à Genève, donc pour la valoriser encore davantage, pour qu'elle ait un rayonnement à l'international. Et donc, comme Paris est à 3 heures de TGV, ou 1 heure d'avion à peine, j'ai eu envie de faire un Paris-Genève aller-retour. Donc, il y a des entretiens à Genève de personnalités du monde de l'art, donc des artistes, des galeristes, des conservateurs, des directeurs de musées, de centres, des collectionneurs, tout ce qui tourne autour de l'art. Et puis, il y a des vidéos qui s'appellent Scopiton, et qui sont très belles et qui sont originales et qui sont vraiment faites par l'art à Genève avec un jingle spécial qu'on a commandé à un compositeur.
Très important que tu en parles à la radio aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs le sachent, ça.
Non, c'est certainement qu'ils...
C'est difficile de faire savoir, de faire connaître, une démarche aussi particulière.
On s'y attelle beaucoup, hein. Donc pour l'instant c'est un grand succès parce qu'on a une moyenne de 500 visiteurs par jour, ce qui est considérable.
Bien. Bravo.
Oui. Et voilà. Donc à visiter absolument. C'est très intéressant.
Alors Vanna, comment organises-tu ta vie? Tu es une grand-mère de 2 petits enfants.
Petite
fille.
Tu as
l'air d'une jeune fille avec tes cheveux blonds. On peut pas imaginer. Et comment organises-tu ta vie de grand-mère, de mère, d'amie, de galeriste, d'éditrice et d'artiste? Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est en 2017, donc il y a très peu de temps que tu as fait cette fameuse exposition.
Exomatrasses.
Voilà.
Oui.
Donc c'est très important de savoir comment tu fais ça, parce que c'est étrange aussi. Tu dois l'expliquer à nos auditeurs.
Je crois qu'il n'y a pas de mystère, hein, il faut travailler. Donc, je travaille 14-15 heures par jour. Je fais 80-100 heures par semaine et je vois très peu mes amis. Très, très, très peu.
Hélas, je le sais.
Très peu mes petites filles aussi.
Oui.
Oui, je suis... c'est comme ça. C'est un choix. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça va se calmer un petit peu plus tard, mais il faut je veux dire, pour avoir un résultat, il faut s'y mettre à fond, c'est ça.
Tout à fait.
Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de
recette. C'est ce qu'on dit dans la bouteille à moitié pleine de façon très régulière, mais on peut le dire aussi dans l'œil du commissaire-priseur. C'est ouais, très important.
C'est très important.
C'est très important, cette valeur travail, cette valeur surtout opiniâtreté dans le travail. Mais oui. Jamais rien lâcher.
C'est vrai, ben, c'est comme ça qu'on a des résultats.
C'est vrai. Si tu émettais un vœu à cet instant, ce serait lequel ?
Que les gens puissent trouver leur passion dans la vie. Parce que ça amène tellement d'équilibre et de bonheur hein, que du coup, on ne s'intéresse pas aux petits problèmes et on n'embête pas le voisin et les autres.
Mais c'est une très jolie conclusion, Vanna. Merci beaucoup.
Merci à
beaucoup
toi, Viviane.
D'être venue parler de ce parcours très atypique et très exceptionnel de la grande artiste que tu es, je le répète. Et merci. J'aimerais bien que tu viennes nous parler régulièrement de tes futures expositions et de tes futures démarches, parce que c'est important. Tu es quelqu'un de très important dans la Genève artistique et la Genève culturelle.
Merci infiniment
d'avoir apporté ce témoignage. Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz
qui
enregistre cette émission.
Et merci de tout cœur, Viviane.
À bientôt, Vanna.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
On écoute maintenant. C'est toi qui vas prononcer son nom.
Un jeune grec qui vit à Paris, Ioan Papakostadino, pourquoi tu cries ?
imaginé qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu. Je voulais pas tester sur ça, c'est un jeu que je comprends pas. Nous deux c'était bien au début, on est parti quand l'autre est revenu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, je te arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu.